Les bêtes arrivent la nuit. Elles sentent. Elles résistent. Avant l'aube, un jeune homme les conduit à la mort. Son chien découvre un monde effrayant qui semble ne jamais devoir s'arrêter. Gorge, cœur, ventre est le premier film de la jeune réalisatrice niçoise Maud Alpi. Il suit un jeune homme, incarné par Virgile Enro, fidèlement accompagné par son chien, Boston. Embauché dans un abattoir, il partage sa vie entre une maison désaffectée qu'il squatte et ce lieu de mort qu'il apprivoise. Acclimatation aux bêtes et à l'omniprésence de la mort. Le fil conducteur de la narration se trouve être finalement le chien, Boston, qui incarne à la fois le vivant et ce lien entre les bêtes et l'homme. Alors bonjour Maud Alpi.
Bonjour.
Vous êtes actuellement à Marseille où vous présentez votre film ce vendredi 20 janvier au Gyptis. Et alors pour commencer tout simplement, qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce premier long métrage ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui me retenaient de faire ce film et de le faire dans un abattoir en fonctionnement, parce que c'est un lieu qui me faisait peur et qui m'obsédait à la fois. Et c'est venu de la volonté de traduire une émotion qu'on a eue avec la personne avec qui j'écris et avec qui je vis. Et à une époque où on se levait très tôt à l'aube et pour travailler. Et l'aube était un moment toujours lumineux, toujours prometteur et en même temps entaché, alourdi de la conscience que c'était... une des heures les plus cruelles, les plus meurtrières pour les animaux, en tout cas pour les animaux qu'on mange. Et donc on avait envie de traduire cette émotion qui était très liée à l'été aussi, voilà, à la jeunesse, à comment ne pas pleurer devant le ciel bleu quand à la coexistence, c'est un sentiment très naïf, la coexistence du ciel bleu et des massacres qui font de notre quotidien. Ce que je ressens, enfin, c'est au-delà de la question végétarienne, qui est une question individuelle, enfin, de morale individuelle, mais j'avais envie moi, de faire ressentir jusque dans un lieu qui est extrêmement séparateur, qui essaie d'annihiler les individus, de faire ressentir ce qui pouvait subsister de la communauté qu'il y a entre les animaux, entre les bêtes entre elles, mais aussi entre les animaux humains et non humains. C'était ces émotions-là que j'avais envie de chercher.
Et alors, juste une première question très pratique. Hein. Comment avez-vous eu accès à cet abattoir ?
Bah, ça a été une recherche. On a rencontré différents directeurs d'abattoirs, visité différents abattoirs. C'est sûr que c'est un monde qui n'est pas extrêmement ouvert, mais il est quand même curieux. Tous les abattoirs ne nous convenaient pas aussi. Enfin, c'était dans la double sens. Parce qu'on cherchait quand même un lieu qui raconte des choses. Et celui qu'on a choisi, mais il a un espace, il a des vides, il a des vides, il a des trous, il a un passage du temps, enfin des matières marquées par le temps qui racontent des choses. Et si on a pu y travailler, c'est parce que le film n'est pas un documentaire, malgré son aspect en partie documentaire, mais une fiction, que c'est des acteurs qui jouent les travailleurs de l'abattoir. On ne pointe pas du doigt les personnes qui travaillent réellement là. Et d'autre part, on travaille dans la zone sale, donc depuis l'arrivée des bêtes jusqu'au moment où on arrache la peau et où l'animal cesse d'être identifiable comme individu. Et c'est une zone où, bah, comme son nom l'indique, il n'y a pas beaucoup de normes d'hygiène. Donc ça rassurait aussi. Et puis on avait promis de ne pas contrarier le rythme de la chaîne, d'épouser le rythme de la chaîne. Ça, c'était une nécessité pour qu'il puisse accepter notre tournage.
Ouais, donc ça épouse vraiment le rythme. Dans la conduite des animaux
Oui, tout à fait. Et puis après, ce rythme, il n'est pas régulier selon les jours. Il y a des moments où ils attendent des bêtes à tuer, puis il n'y en a pas. Et puis il y a des moments où c'est le trop-plein.
Mais on le ressent aussi d'ailleurs hein, dans le rythme du film, hein, où c'est pas... Justement, où il y a aussi ces vides-là. Enfin, on n'est pas du tout dans l'abattage, cette espèce de frénésie presque industrielle en fait, qu'on pourrait imaginer à l'image d'une usine. Hein. On pourrait imaginer ça d'un abattoir, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des moments de pause, des moments de vie aussi différents.
Bah, moi, ça ne m'intéressait pas de... Je m'excuse de vous interrompre, ça ne m'intéresserait pas de raconter l'excès industriel, l'excès de l'hyper-industrialisation. Ça m'intéressait d'essayer justement de trouver un lieu où on soit un peu encore aux origines du geste qui pousse à abattre une bête qui a été élevée, dont on a pris soin, et à l'origine du geste sacrificiel pour la viande. Quoi. Voilà. Donc et je voulais qu'on voit beaucoup plus les personnes vivantes qui sont là que la machine. Ou, voilà.
Il y a cette dimension-là empathique qui revient avec cette caméra, c'est vrai, dans la conduite, dans ces couloirs de la mort qui est collé aux bêtes, collé à leur flanc, où on voit justement quand elles se retournent un peu le regard. Alors un regard d'ailleurs affolé et en même temps un peu abruti, mais c'était cette volonté-là aussi d'être empathique.
D'être avec, ouais, d'être avec absolument, sans pour autant se mettre à la place des bêtes, ce que moi je me sentais pas de faire, je me sentais pas le droit de le faire, je me sentais pas la, voilà, il y a nécessairement une limite entre nous. Je filme quand même en mouvement, je filme toujours derrière l'homme parce que j'ai pas trop le choix, et oui, mais je voulais que le regard il soit caressant, qu'il nous les fasse percevoir belle, chaude, qu'on sente qu'il y avait encore plein de vie sous la peau, qu'il y avait un désir de vivre. Et puis après, ben certaines ont le regard vif, inquiet, certaines ont le regard un peu endormi, d'autres se révoltent. Enfin, c'est des individus, donc il y en a, elles sont plus ou moins dociles, plus ou moins naïves. Enfin, moi, je serais bien en peine de traduire tout ce qui se joue dans leur regard, mais ça nous importait aussi avec le chef op qu'on le peu de temps qu'on les voit, on les distingue chacune et on voit des émotions différentes sur différents visages.
Le peu de temps qu'on les voit, c'est-à-dire que c'est une question que je me posais aussi. Est-ce que c'est plus compliqué de tourner avec des animaux? Est-ce que ça vous a demandé beaucoup de temps? Notamment Boston aussi, hein, ce chien qui à un moment donné s'endort parce que son maître lui dit de s'endormir, mais ça met du temps. Et toutes ces scènes-là où donc il faut un peu commander les animaux, ce qui est compliqué, surtout les bêtes comme ça. Est-ce que ça vous a demandé un temps de tournage beaucoup plus long?
C'est juste un processus de tournage qui s'adapte au fait qu'on... On n'est pas avec des personnes à qui on donne des commandes, justement. Et puis après, moi, j'avais deux attitudes très différentes envers les acteurs, dont Boston fait partie, et les autres bêtes qui sont déjà très stressées, enfin, voilà, hyper stressées dans cet endroit qui est tragique pour elles. Et je n'avais pas du tout envie de leur imposer, en plus de la présence de la caméra, d'autres contraintes. Donc elles sont dans une situation documentaire vis-à-vis de nous. On n'est pas en train de les conditionner, d'essayer de leur faire jouer quelque chose. On saisit les choses. Avec Boston, c'est un petit peu différent parce qu'on l'avait préparé à jouer. On lui avait appris certaines choses en douceur. C'était pas du dressage, c'était du jeu intensifié. Et on savait en même temps que sa plus grande ressource, c'était sa spontanéité et qu'il fallait pouvoir être prêt à l'accueillir. Donc on sacralisait les premières prises avec lui et on le mettait au contact des lieux et des personnes qu'on voulait lui faire rencontrer vraiment au dernier moment quand on tournait pour pouvoir profiter de toute sa spontanéité. Donc dans les scènes avec lui, il y a toujours un mélange de direction technique et puis de quelque chose qui voilà, de surprise.
Et Virgile Enro, lui aussi, était une sorte de dresseur, non ? Au-delà du tournage, je voyais d'ailleurs dans le générique hein, qu'il faisait partie des dresseurs.
Oui, il a travaillé avec Baptiste, qui était coach des acteurs. Ils ont travaillé beaucoup avec Boston, avant et pendant le tournage, pour mieux le connaître, mieux savoir jusqu'où on pouvait l'emmener, enfin voilà.
Et alors, le rôle de Boston, intéressant, hein, entre... C'est ça, donc lui a la faveur de l'homme, hein, il est choyé par l'homme, donc il a une condition animale à part. Et en même temps, on se demande s'il ressent peut-être plus que l'homme la douleur animale. Et donc voilà, il symbolise ça aussi, cette part de vie, et ce pont entre l'homme et la bête. Quel est le rôle que vous voulez lui donner, le rôle poétique aussi ?
Je voulais qu'il soit notre guide dans les lieux et qu'il soit un vecteur en effet émotionnel, parce que lui, il n'a pas la retenue qui est imposée à Virgile par sa fonction. Lui, il n'a pas cette barrière-là. Donc, il peut, et c'est un jeune chien curieux qui peut se permettre une curiosité voilà, sans limite. Et c'est amusant que beaucoup de spectateurs projettent l'émotion qu'ils ressentent vis-à-vis de la détresse des bêtes, ils la projettent dans le regard du chien. Même si rien ne dit que le chien a quelque chose comme une profonde empathie ou une détresse vis-à-vis des autres animaux, ce qui est certain, c'est qu'il a une grande curiosité et une forme de sympathie. Mais ça s'arrête, voilà. L'histoire, en tout cas, ne raconte pas qu'il ne le pose pas comme un libérateur ou un...
Non, c'est ça. Après, on transfère c'est... sur Boston ce qu'on
veut lui transférer. On transfère beaucoup de choses et qu'il est nécessaire pour ça, parce que c'est beaucoup plus dur de transférer sur les humains qui sont mis en question dans le film, dans leur rôle, dans la rétention de leurs émotions.
Alors on peut justement parler des humains et surtout de l'humain, donc de Virgile Henrault, qui est ce jeune précaire qui travaille dans cet abattoir en se disant qu'il touchera ensuite le chômage et qu'il pourra partir réaliser ses rêves. Et il y a ce côté-là aussi d'une jeunesse qui a du mal à gagner sa vie et en tout cas à s'épanouir dans son travail aussi, parce qu'il n'a pas le choix. Et donc voilà, il faut bien travailler, même si le travail c'est de mener des animaux à la mort. C'était ça aussi qui était dénoncé, c'est cette époque.
Dénoncer, enfin, je sais pas. Moi, c'est ce que, en tout cas, je ne me voyais pas mettre un autre personnage que quelqu'un de très jeune, mais très jeune aussi parce que encore impressionnable, encore avec encore quelque chose qui pouvait être ébranlé en lui. Et quelqu'un de très jeune qui aussi aurait la morgue de se dire non, mais c'est bon, moi de toute façon, j'y passe que quelques temps. J'y passe et puis voilà, j'y passe pas longtemps, je supporterai. J'ai eu d'autres galères, je peux supporter ça. Et puis qui finalement est gagné par les émotions de l'endroit. Mais je voulais que ça soit un personnage qui soit déjà assez libre dans ses choix de vie et qui soit quand même rattrapé par cette machine. Par cette machine broyeuse du pouvoir qui lui il fuit en étant un vagabond et là il est un peu rattrapé par le cœur, enfin la matrice de cette broyeuse,
ce système du profit, système capitaliste dans lequel il est aussi du coup
ce système
forcément lié. Ouais,
de l'appropriation des autres quoi.
C'est là où c'est très très beau dans le film aussi hein, c'est que donc pour oublier ce qu'il vit et toutes ces horreurs, donc bon, on voit qu'il se drogue hein, en dehors de l'abattoir. Et puis même au sein de l'abattoir, hein, quand il y a une idée de purification aussi, une métaphore en tout cas avec l'eau sur les bêtes. D'ailleurs, il se fait railler par un collègue de travail. Et puis l'eau aussi qui se met dessus. Par les flammes aussi. La fumée, c'est vrai que cette magnifique pluie comme ça de cendres aussi à la fin. Donc ouais, il y a une métaphore de la purification et de la culpabilité aussi.
On voulait suggérer, sans l'expliquer, parce qu'on l'avait expliqué au départ, puis on a décidé de ne pas le tourner comme ça, mais on voulait suggérer par les sensations qu'il fait chaud dans cet endroit, parce que les bêtes, elles, voilà, c'est pour ça qu'on a travaillé une image chaude, et que les bêtes, avec leur corps imposant, leur souffle et tout, elles dégagent beaucoup de chaleur. Et que lui, il s'arrose pour faire descendre cette chaleur, comme si c'était aussi un moyen de faire descendre le lien qui s'établit entre lui et les autres animaux, entre sa peau et la peau des autres bêtes. Et l'eau, l'eau là-dedans est une consolation simplement pour moi. Mmh. Une consolation, retrouver de la fraîcheur, retrouver la fraîcheur de l'extérieur. C'était l'idée que ce sont des nuits chaudes, quoi. Contrairement à l'image qu'on peut avoir des grands frigos, des abattoirs, qui existent aussi, hein, mais du côté clinique et froid de l'abattoir. Mmh. Et moi, je voulais raconter que c'était un lieu empli de vivants qui soufflent leur dernière chaleur de vie. Voilà. Et que tout ça, ça avec les émotions, bah, ça circule. Et ça circule d'un esprit à l'autre, d'un corps à l'autre.
C'est vrai que c'est un lieu, on le sent dans le film, un lieu moite, un lieu de sueur. Et d'ailleurs, c'est ce filtre orangé, jaunâtre aussi, hein, qui est notamment très présent au début du film, qui nous suit d'ailleurs tout le film, qui transcrit ça aussi, cette chaleur.
Ouais, c'est une image, enfin, une interprétation chaude de l'image qu'on a travaillée.
Oui, c'est ça.
De différentes manières.
Et Virgile, pour finir avec lui, c'est vrai qu'il est... Le contraste est très fort entre l'amour pour son chien et finalement quand même un conditionnement dans sa vie à l'abattoir, parce qu'il est froid à un moment donné aussi avec les bêtes. Il n'est pas toujours dans l'empathie, lui. Il a quand même, il est obligé de toute manière de se protéger et on le voit de devenir très dur aussi et glacial avec les bêtes, de devenir un homme de fer, notamment quand il conduit les cochons ou les bêtes à l'abattoir.
Il est aspiré dans la fonction de résister à ces cochons qui veulent pas mourir, quoi. Et ça, c'est des choses qui sont absolument sans psychologie. Lui, il a joué ça en jouant avec simplement la situation. Et je veux dire, il y a pas de ma part de j'ai pas surajouté une part de cruauté ou de sadisme de sa part. C'est il est juste en train d'essayer d'accomplir les gestes qu'on lui demande et d'aller au bout de la situation. Et elle impose en effet une forme de froideur et de brutalité.
Il n'est jamais sadique, hein, c'est vrai. Oui. Il est simplement dans sa fonction.
Il est un peu dépassé.
La cruauté.
Il est un peu dépassé parfois. Mais moi ça m'intéressait pas de raconter. Et les rares fois on le voit dépasser, d'ailleurs, ça surgit, c'est pas quelque chose qui est programmé, qui est écrit. C'est quelque chose qui se passe justement parce qu'on est soumis au rythme de la chaîne et que lui, il stresse de ne pas arriver jusqu'au bout. Et qu'on est pris complètement dans la machine, en fait. Mais moi, ça ne m'intéressait pas de raconter les excès auxquels peuvent conduire ces machines de mort et le sadisme que ça peut provoquer chez certaines personnes, parce que c'est très connu. Et encore une fois, ce qui m'intéressait, c'était de déceler qu'est-ce qui pouvait encore rester, subsister d'une communauté avec les bêtes, et qui est possible parce que lui, il travaille avec les bêtes vivantes, et qui doit malgré tout en prendre encore un peu soin jusqu'au dernier moment.
Et lui, Virgile Henrault, il connaissait le monde des abattoirs avant le tournage ?
Pas du tout. Non, pas du tout. Il a appris, il a été formé rapidement à ce métier qu'il devait exercer quand on tournait. On s'est rendu plusieurs fois à l'abattoir pour qu'il apprenne petit à petit, pour observer.
Ouais, donc il a vraiment découvert avec vous, ce monde-là.
Il a découvert avec nous, mais il a découvert en même temps, comme Boston d'ailleurs, une situation de tournage. Et je pense que sur le coup, il a été davantage englouti par la situation du tournage et l'inquiétude de bien faire pour le tournage, plutôt que parce que ce à quoi il assistait en tant que spectateur à l'abattoir. Et c'est que quand il a vu le film que là, il a dit « Ah, maintenant je vois les bêtes et je vois que je les ai vraiment emmenées à la mort. »
Donc lui, il était plus acteur que
oui,
Bouvier.
Oui, puis quelque part, l'avoir mis en situation de Bouvier faisait que de toute façon, il s'est aussi glissé dans ce rôle qui implique de se blinder très vite.
Et c'est là où ce film est, donc, et on le sent aussi chez lui, et pas documentaire. Et justement, ça me permet de faire le pont sur le côté plastique, esthétique du film, et notamment le travail de la lumière. Donc une lumière qui est divine, un peu sacrée, et donc qui signifie à la fois donc la mort, hein, l'abattage, et puis aussi une porte de sortie. C'est ça qui est étrange. Donc elle signifie à la fois la mort, mais aussi la vie, et notamment à la fin, sans dévoiler, donc avec une porte de sortie pour le chien Boston et son maître.
Le chien est la seule personne qui pouvait se sortir vraiment de là.
Et on se dit aussi que les bêtes souffrent et que finalement la mort est peut-être la...
La mort, dans un certain sens, c'est une délivrance. Une délivrance. Surtout si elles ont vécu une vie d'enfermement. Mais
C'est en ce sens-là qu'une lumière libératrice.
On peut le ressentir comme ça, une forme de libération. Après, on a essayé aussi de jouer sur la lumière du jour qui arrive brutalement après des longs tunnels de nuit, comme quelque chose qui n'est pas vraiment libérateur, mais qui est plutôt halluciné, qui n'a plus beaucoup de réalité. C'est-à-dire on voulait inverser cet abattoir, ce lieu infernal, souvent fantasmé, qui est dérobé à nos regards. Il devient vraiment le tunnel où on s'enfonce, le lieu où on gravite, où on revient obsessionnellement. Et le jour et le monde, entre guillemets, normal, le monde familier, finit par perdre de sa réalité et apparaître étrange. Ça, c'est ce qu'on essaie de travailler dans les contrastes de lumière, aussi bien avec le chef-op qu'avec la monteuse, sur la manière dont on sort de là. On a toujours l'impression d'être un peu ébloui et d'halluciner un peu le monde de Diurne.
C'est ça, c'est qu'en fait, donc pour vous, les Bouviers qui travaillent, qui font ce métier, ne peuvent pas vraiment s'en sortir et vivre leur vie normalement.
Alors, j'ai pas essayé de raconter, enfin, je n'ai pas de réponse à ça parce que le personnage que j'ai pris est volontairement un passant là-dedans. Même s'il va être sûrement très marqué parce ce qu'il a vécu là, mais c'est quelqu'un qui est de passage. Et je ne décris pas un ouvrier qui travaille là depuis des années, qui en a encore pour des années, qui s'est engagé avec une famille, etc. Je pense que d'une manière ou d'une autre, on est hanté par ça, mais on peut refouler tellement, tellement loin. On a une capacité de refoulement telle. Et puis de blindage tel, enfin, nous on l'a constaté sur le tournage, comment on se blindait en étant hyper sensible aux bêtes et en voulant s'intéresser à elles, on arrivait quand même à se blinder parce que le lieu est hostile et donne envie d'une seule chose, c'est de fuir. Ouais. Moi j'ai pas de réponse sur ce que peuvent ou ne peuvent pas les gens, je garde un peu confiance dans les humains, donc je pense qu'ils peuvent s'en... Ils peuvent arriver à se libérer de tout, mais là, c'est vrai que c'est quand même une machine particulièrement oppressante et en plus dont on ne tire aucune fierté. Enfin, des gens qui travaillent dans un abattoir qui ne vont pas avoir la fierté que peut-être peut avoir un soldat. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas cette ambivalence-là. Ils peuvent se raconter des histoires, ils peuvent se raconter que des fois ils affrontent des grosses bêtes. Enfin, voilà, avec les vaches, on voit bien qu'il y a pas mal d'histoires qui circulent sur des accidents qui sont arrivés avec des vaches. Voilà, les bêtes, c'est ça peut fournir une mythologie qui est un peu consolatrice peut-être, mais...
Et vous sentez que vous êtes libéré de cette expérience ?
Oh oui, oui, enfin, au sens où je voulais dire où je suis pas hantée par ça, je fais pas des cauchemars la nuit. Non, mais j'ai pas de raison de faire des cauchemars parce que j'étais hantée par des images avant et j'ai voulu aller voir de mes propres yeux et fabriquer ma propre vision.
Vous parliez de ne pas se mettre à la place de l'animal, parce que je pense que ce serait très très subjectif et puis compliqué à montrer. Mais il y a quand même des plans dans le film qui m'ont assez touchée, qui sont des plans, par exemple, de flou, notamment sur une scène assez dure. D'autres aussi de l'extérieur, par exemple, de la vie à l'extérieur. Et je me demandais du coup qui est derrière ce...
Ouais, à qui c'est relié.
Ouais.
C'est vrai que c'est relié toujours à des animaux et il y a toujours Boston dans le... Toujours Boston dans la situation. Il y a plusieurs fois Boston qui entend ou qui voit. Et il y a un plan qui est peut-être plus étrange où on voit en effet un corps se faire dépecer et personne n'est là pour le voir. Et on le perçoit de façon un peu fantasmatique. Et ça relie en fait une vache qui attend la mort et qui peut-être qui va attendre toute la journée pour être tuée le lendemain. Et Boston qui lui aussi ne voit rien mais sent. Voilà, moi je voulais essayer de suggérer des perceptions animales sans être dans le regard des animaux. Mais aussi suggérer qu'il y a d'autres choses que le regard pour un chien, pour une vache. Enfin, il y a plein d'autres sens, non, mais le regard vraiment très, très... Enfin, voilà, on est des êtres de regard, mais un chien, il perçoit des milliers de choses, il décode des milliers de choses sans les voir.
Mais c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur l'image de votre film, et moi aussi, ce qui m'a beaucoup intéressée, et qui est assez, assez fort d'ailleurs, c'est le son. Le travail du son, et qui est à la fois... Qui est à la fois très puissant, très profond, et en même temps très simple, en fait. Des sons d'animaux, des sons d'oiseaux aussi. Des sons d'oiseaux qui...
Qui sont là, hein, les oiseaux, c'est une donnée de ce lieu-là. Et du fait qu'on tournait à la fin du printemps. Donc c'est des hirondelles qui nichent là, et les gens de l'abattoir ne nettoient pas les nids. Enfin, ou les nettoient rarement, ils les laissent vivre là. Ouais, le son, il est naturel au sens où on a utilisé quasiment que des sons pris à l'abattoir, mais qu'on les a souvent travaillés, montés pour donner le sentiment qu'il se passe toujours quelque chose ailleurs. Parce que nous, on pouvait pas tourner tout le temps en pleine activité, donc on devait aussi parfois composer, faire comme si la machine continuait de tourner alors qu'on était nous en train de tourner avant ou après le travail. Et là aussi, on cherchait des perceptions animales un peu obsédantes, à faire ressentir qu'elle pouvait être l'angoisse d'être là, comme dans une prison. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit on se sent vraiment, vraiment dans une prison. C'est étrange parce que je pense qu'il y a des gens qui se sentent très, très oppressés par ces sons. Et il y a une personne de l'abattoir qui a vu le film et qui m'a dit « Ah, le son, et j'ai beaucoup aimé le traitement en douceur du son ». Le travail en douceur sur le son. Donc c'est malgré nous ce qu'on a essayé d'insuffler, de souligner, d'ajouter. Voilà, nous on a l'impression d'avoir fait un travail vraiment de renforcement des ambiances et tout. On est quand même loin de, je dirais, de l'accablement ou du sentiment d'écrasement que peuvent ressentir des gens qui travaillent là toute la journée et qui ont la machine plein la tête.
Et je vais juste rebondir du coup sur le terme de douceur, parce que c'est une question que je me pose, et après c'est peut-être mon point de vue hein, sur cette question-là, mais par rapport du coup à ce film de Herzog, Le son de ténèbres, qui est un film absolument magnifique en termes d'image, mais qui est terrifiant dans le sujet, qui sont l'explosion de puits de pétrole par l'armée irakienne au Koweït, et qui pour autant crée des images qui sont d'une beauté. Et donc du coup, cette question de l'esthétisation de l'horreur, en fait, comment est-ce que vous positionnez par rapport à ça, et comment est-ce que vous gérez cette ambivalence et qui peut être un peu compliquée
C'est des questions que je me suis posées sur le tournage quand je voyais des lumières trop découpées, trop théâtrales, qui rendaient les lieux et les gestes trop abstraits. Parce qu'on aurait pu faire des choses très expressionnistes qui auraient vraiment presque eu l'air d'être tournées dans des décors reconstruits. Et ça, j'en voulais pas. Mais j'ai quand même pas l'impression d'avoir esthétisé l'horreur. Si j'ai esthétisé quelque chose, même si c'est pas moi, c'est pas le comment dire, c'est pas l'intention avec laquelle j'arrive. C'est je veux rendre les personnes que je filme, je veux les rendre belles, quelles qu'elles soient, que ce soit un garçon, une vache, un cochon. Je veux les rendre belles et je veux qu'on sente qu'elles ressentent des choses, même si on peut pas tout déchiffrer. J'ai l'impression d'avoir esthétisé des êtres, des présences, mais pas l'horreur, parce que je suis pas allée, je voulais absolument pas rendre belle le travail des machines, enfin je suis pas allée les filmer, les machines de toute façon, les gestes de tuerie, les gestes d'égorgement, le sang, enfin on peut aussi esthétiser ça, enfin on peut tout faire de toute façon. Donc ça c'était une limite pour moi. Et après, je crois aussi qu'on est sur. Enfin, moi, j'ai pas exagéré grand chose. Peut-être qu'on est surpris juste quand on accorde un peu d'attention, un peu de temps, et qu'on s'approche un peu d'êtres dont on n'a pas l'habitude de s'approcher dans des circonstances dans lesquelles on n'a pas envie de s'approcher. Bah, quand on fait ça, on est surpris de voir la beauté et la douceur que dégagent d'autres êtres. Le film n'est pas à l'opposé de ce que vous verriez si vous preniez le temps de longer un couloir de la mort. Pour revenir à Herzog, ce film est magnifique, mais alors c'est vrai qu'il y a une esthétisation aussi dans le sens où il n'y a pas d'histoire dans le film. C'est aussi un opéra de la fin du monde. C'est des tableaux de fin du monde. Je pense que dans le fait qu'on suive quand même le parcours de quelqu'un avec la progression d'un personnage, aussi ténue soit-elle, toute la dimension esthétisante reste quand même... Enfin voilà, pour moi, c'est quelque chose qui contrebalance la dimension qui peut parfois paraître esthétisante. Mais encore une fois, j'ai vraiment pas fait un grand travail d'exagération ou de lyrisme en fait, autour de ces bêtes. J'ai juste pris le temps.
Le titre du film, Gorge, cœur, ventre, est donc tiré d'un poème de Pasolini, fait référence au passage du livre La religion de notre temps. Pourquoi avoir choisi ce titre et cette référence ?
C'est la référence m'a donné cette idée de titre. Après, c'est un poème qui parle de sa jeunesse fervente. Donc, à part la jeunesse, il n'y avait pas énormément de liens avec le film. Il parle de moments très, très solaires. Parce que gorge, cœur, ventre, ça me semble être des sièges émotionnels qui nous relient, nous et d'autres animaux, au moins les mammifères. Et c'est aussi des lieux très vulnérables dans notre corps. Donc voilà, je voulais en appeler à ça.
Et moi, pour finir, je voudrais juste revenir sur les mots qu'on a employés tout à l'heure. Tu parlais méditatif, contemplatif. Je trouve que méditatif, là, je peux me retrouver dans ce terme-là. Parce que pour le coup, on n'en sort pas indemne, c'est-à-dire qu'on se posait des milliards de questions ensuite sur son rapport aux animaux. Par contre, contemplatif, je ne sais pas, je dirais plutôt à l'écoute, à tel point que cette écoute modèle aussi le rythme du film, la durée des plans, la façon dont le montage est fait, à l'écoute de l'altérité de l'autre. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait dans ce film et qui m'a fait construire toute une thématique autour, c'était l'idée de la construction... d'un personnage animal. Comment un animal peut être un personnage en évitant l'écueil de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire en n'essayant pas d'y retrouver des sentiments humains dans ses yeux, dans sa façon de se comporter, mais en étant à l'écoute justement de sa différence absolue et de sa singularité. Moi, c'est aussi autre chose qui m'a frappé dans le film, c'est la capacité de considérer chaque animal comme un individu, qui d'ailleurs, sans vouloir parler de moi, m'a fait devenir végétarienne, puisque c'est quelque chose, tu parlais de refoulement, mais qu'on occulte complètement quand on sort de la catégorie des animaux domestiques. Les autres animaux sont du bétail et sont des groupes et ne sont jamais considérés comme des individus. Et du coup, dans ma programmation Gypsy, je me suis posé cette question-là de est-il possible qu'un animal soit un personnage ? Et quand un film tente de le faire devenir, en quoi ça menace l'idée de fiction, l'idée de documentaire ? Et je me demandais comment tu t'étais posé toutes ces questions-là autour de la question de l'animal-personnage dans un film qui en fait dépasse complètement les frontières entre fiction et documentaire.
Ben, j'ai eu beaucoup de mal à me les poser concrètement avant de pouvoir faire le film. Parce que j'allais tellement vers une machine où je contrôlais rien. C'est une chose différente de vouloir penser un rôle pour un chien et de se dire bon, il va y avoir des animaux qui vont venir chaque jour, je sais pas qui ils sont, je connais rien de leur histoire, je vais les saisir à un moment tragique de leur histoire et il va falloir quand même qu'ils existent quelques secondes ou quelques minutes comme des personnages. Donc ça, j'ai pu m'y mesurer qu'en faisant le film, et de toute façon j'avais décidé de leur accorder du temps et d'être extrêmement disponible, quitte à sacrifier d'autres scènes qui étaient prévues, disponibles à ce que je pouvais recueillir d'eux. Et c'est au montage qu'on a vraiment laissé encore davantage de place à leur voix. En effet, et ça décide de la durée des plans. Et ça, c'est quelque chose que je pouvais absolument pas prévoir. Qui s'exprimerait et quand, avec quelle intensité. Voilà, donc ça, c'est vraiment un travail qui s'est fait au montage. J'étais pas inquiète, moi, de ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. J'étais pas inquiète, ben dans la mesure où, de toute façon, c'était un défilé de personnages qu'on n'allait pas voir vivre des aventures. Voilà. On n'allait pas greffer sur eux des schémas narratifs aussi qu'on greffe sur les humains. Donc c'était perturbant parce que ça bouleversait les façons de raconter. En effet, il n'y avait plus à... Ça parcellisait le film. On n'avait plus les repères habituels auxquels s'accrocher. Et on a beaucoup sacrifié de ce qu'on voulait raconter au départ sur le personnage humain pour leur laisser cette place, pour leur laisser en tout cas cette voix, quoi. C'est surtout je voulais absolument filmer leur visage et les faire exister à l'écran, mais je ne m'attendais pas à ce que leur voix m'y aide autant et qu'ils s'adressent comme ça à nous. Et l'anthropomorphisme, ouais, c'était pas une inquiétude parce que, encore une fois, j'ai ce sentiment qu'il y a une communauté qui existe. Je ne me fais pas d'illusions non plus dessus. Ce n'est pas une communauté semblable à la communauté humaine où on va créer, faire des projets ensemble et créer des échanges fous. Hein, mais il y a quand même une communauté qui existe, qui est sous-estimée, qui est sous-exploitée, enfin, qui est surexploitée, un peu tristement, de façon morbide, mais qui est sous-exploitée dans ce qu'elle permettrait comme sensation, comme échange, voilà, qui sont des échanges qui restent un peu mystérieux. Et moi, je vois quand même pas mal d'émotions passer chez les bêtes. Enfin, j'ai pas de doute sur le fait qu'il y a des émotions qui passent. Et après, bien sûr, c'est mon point de vue d'humaine de mettre des noms aux émotions. Mais ça, c'est notre... On va pas pouvoir vivre sans ça. Donc, je vois pas ça comme un péché, le penchant à dire bah, les cochons se mettent les uns contre les autres, peut-être parce qu'ils veulent se rassurer ou se consoler, ou que l'agneau belle parce qu'il est perdu et qu'il est en pleine détresse. Je crois que c'est en acceptant cette communauté, en se disant qu'on n'est pas les seuls aussi à détenir ces précieuses émotions, qu'on pourra progresser vers une communauté plus heureux, enfin plus épanoui pour tout le monde.
Donc cet entretien a été réalisé avec trois végétariennes, Juliette Grimont, programmatrice du Gyptis, Suzanne Moreau, journaliste de La Grenouille, et donc Maud Alpi, réalisatrice de Gorge, Cœur, Ventre. Merci à vous et on vous souhaite une belle journée sur La Grenouille.
Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place Help me roll away the stone. Show me the place. I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could save. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. The troubles came, I saved what I could save. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Yeah.